VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bonjour, nos toutes dernières nouvelles. Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad, à savoir les rebelles, principalement Touareg du nord du pays, s'engage à paraffer l'accord d'Alger du 1er mars 2015. Un document déjà paraffé par le gouvernement malien et la plateforme des groupes d'autodéfense. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est au nom de la médiation internationale que l'Algérie a informé le gouvernement malien de la décision prise par la coordination des mouvements de l'Azawad qui veut paraffer l'accord d'Alger le 15 avril prochain. Aussitôt informé, le chef du gouvernement malien a réuni les forces vives de la nation, l'opposition et la majorité, plus les acteurs de la société civile. Le gouvernement et la majorité se réjouissent de la décision prise par les belligérants. L'opposition malienne préfère attendre le paraf avant de se prononcer, le temps aussi de discuter avec sa base. Côté algérien, l'heure est à la préparation de cette cérémonie. Le ministre algérien des Affaires étrangères a envoyé une lettre d'invitation à plusieurs délégations pour assister à la cérémonie du mercredi prochain à Alger. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Côté rebelle, le colonel Hassan Agmedi, secrétaire du Front populaire de l'Azawad, estime qu'il est temps pour les Maliens de s'unir dans l'intérêt de leur pays commun. Un extrait de ses propos à la presse, recueilli par Kassim Traoré.
L'appel que je lance aujourd'hui, c'est celui d'aller vers l'avant. Et sans exception, le Mali a besoin de tous ses enfants, de tous ses fils, qu'ils résolvent ses problèmes et qu'ils rebâtissent ce que nous tous, nous avons détruit. Ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est de se dire d'abord la vérité. Et c'est la dire individuellement. Aujourd'hui, il faut que le pays soit rebâti. Et il ne va être rebâti qu'avec ses fils soudés. Il faut que les gens se comprennent. Il faut qu'ils arrêtent de se chamailler. Aujourd'hui, ce pays peut constituer l'armée la plus forte du monde. Si ses fils se retrouvent, ils se disent la vérité et que chacun d'eux se sente malien.
Le colonel Hassan Agmedi, secrétaire du Front populaire de l'Azawad. Côte d'Ivoire, maintenant, la justice ivoirienne a remis en liberté Marie-Odette Lorouillon, influente responsable des femmes du Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Après 6 jours en détention pour trouble à l'ordre public, Madame Lorouillon a été relâchée en même temps que 5 coaccusés. La réaction de son avocat, Maître Toussaint Dako.
Heureux parce que des gens ont retrouvé la liberté. Et puis je suis déçu parce que l'interpellation, la procédure et tous les micmacs qui sont passés me désolent. Ils ont été arrêtés, interpellés, conduits devant chez le procureur sous la base d'un faux rapport produit par la police. Au contact des questions, la réalité était différente du rapport fait par la police qui les a interpellés. Dans le rapport d'interpellation, la police a indiqué que les militants qui étaient venus pour installer la nouvelle direction de la Refondation sont venus s'attaquer à la police, alors que ça n'avait rien à voir, mais juste pour que l'infraction trouble à l'ordre public se réalise et au final, on puisse les condamner.
Maître Toussaint Dako, joint à Abidjan par Chérubin Dorsil. Au Burkina Faso, le nouveau code électoral qui exclut les partisans de l'ex-président Blaise Compaoré des élections d'octobre ne fait pas l'unanimité. Mais dans l'ensemble, la plupart des partis politiques et des groupes de la société civile approuvent le document. Au micro de Bagassikoura, on écoute Siaka Koulibaly, un analyste politique à Ouagadougou, qui est lui contre le nouveau code.
Je trouve que ce n'est pas nécessaire de procéder à une exclusion par la loi, alors que la voie normale aurait été la justice. Parce qu'une loi pareille en démocratie n'a aucune justification. Par ailleurs, le texte est contraire à la constitution du pays et à la charte de la transition qui imposait le principe de l'inclusion.
Ceux qui l'ont adopté disent que les gens de l'ancien régime doivent payer.
Et bien sûr, la meilleure façon de le faire, c'est qu'ils passent devant la justice. Parce que par le texte qui a été adopté, on n'a aucun moyen réel de savoir la responsabilité directe des gens. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui va étudier les crimes de sang et les crimes économiques et établir la responsabilité de ces acteurs-là.
Siaka Koulibaly, un analyste politique à Ouagadougou.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Signature cette semaine à Lomé d'un accord Open Sky, autrement dit de ciel ouvert entre les États-Unis et le Togo. Conclu après 3 ans de négociations, c'est le premier accord aérien civil entre les deux pays. Pour un éclairage, Timothée Donangmaya joint l'ambassadeur américain à Lomé, Robert Whitehead.
C'est un accord historique parce que c'est une étape importante dans la réalisation de l'objectif du gouvernement américain visant à améliorer le climat des investissements au Togo et soutenir le développement économique. Bien sûr, cet accord permet d'avoir avantage des routes aériennes ouvertes, des règles libérales sur le fretement des droits de transport aérien des marchandises entre nos deux pays. Alors, ça ouvre des possibilités.
Et justement, quel impact cela pourrait avoir sur le commerce entre les États-Unis et le Togo?
Le Togo va ouvrir d'ici 4-5 mois le nouveau terminal à l'aéroport. Ils attendent des autres lignes aériennes qui viennent ici. Ils pensent qu'ils peuvent même avoir 4-5 fois plus de passagers qu'ils ont maintenant. Ils ont une ligne aérienne régionale à Sky qui a le siège ici. Ils pensent que ça fait potentiel pour un hub régional de transport qui passe par Lomé. Et c'était intéressant, par exemple, depuis l'année passée, Air Ethiopie a lancé, je pense, 3 vols par semaine qui va au Brésil. Il y a toujours la possibilité, bien sûr, de faire quelque chose direct avec les États-Unis. Évidemment, ça dépend sur les motifs commerciaux. Bon, est-ce que ça fait bon sens, point de vue financier et business?
Robert Whitehead, ambassadeur des États-Unis au Togo, nous parlait de Lomé. En Somalie, le gouvernement a mis à prix les têtes de 11 responsables du groupe islamiste Al-Shabaab, offrant des primes de 100 000 à 250 000 dollars pour leur capture. Des précisions avec Morgane Guiriec.
En tête de liste figure le chef suprême des islamistes somaliens, Ahmed Oumar Diriyé, dit Abu Abaïda, qui a succédé en septembre à Ahmed Abdi Goden, tué par un drone américain. Mogadiscio offre 250 000 dollars pour sa capture. Il est suivi sur la même liste par son adjoint Mahad Warsam Karate, chef des services de renseignement des Chebabs, dont la tête est mise à prix pour 150 000 dollars. Les Chebabs ont revendiqué de nombreuses attaques en Somalie et au Kenya voisin, dont la dernière en date, le 2 avril, à l'université de Garissa, qui avait fait 148 morts, dont 142 étudiants.
Conflit au Yémen. Deux premiers avions d'aide militaire de la Croix-Rouge et de l'UNICEF ont atterri aujourd'hui à Sanaa, la capitale, avec des tonnes de matériel. La veille, le secrétaire général de l'ONU avait lancé un SOS à la communauté internationale pour lui demander de porter secours aux civils du Yémen et de la Syrie en détresse dans des pays en guerre. Les précisions de Nicolas Pinault.
S'adressant à la presse hier à New York, le patron des Nations Unies a déclaré que le conflit au Yémen a plongé ce pays déjà pauvre dans une sévère crise humanitaire. Les raids aériens de la coalition et les tentatives continues des Houthis et leurs alliés en vue d'étendre leur pouvoir ont transformé une crise politique interne en un violent conflit qui risque d'avoir des répercussions régionales profondes et durables, a déclaré Ban Ki-moon. Concernant la Syrie, Ban Ki-moon a exprimé sa préoccupation au sujet de la prise du camp de réfugiés de Yarmouk près de Damas par des combattants du groupe État islamique et leurs alliés. 18 000 civils palestiniens y vivent, notamment des milliers d'enfants.
Au Yémen, la situation humanitaire se détériore, notamment pour les enfants. L'UNICEF dit s'attendre à un pic de malnutrition dans les semaines à venir. On écoute Christophe Boulierac, porte-parole de l'UNICEF.
Il y a une détérioration globale d'une situation qui était de toute façon caractérisée par une fragilité, une vulnérabilité chronique. Au Yémen, 60% environ de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le taux de malnutrition chronique, c'est environ 48%. Et c'est le pays le plus pauvre de la région. Ce qui se passe actuellement, cette escalade dans la violence, affecte les services sociaux, qu'il s'agisse des hôpitaux, qui sont de plus en plus mobilisés, sollicités et qui manquent de matériel. Mais également, oui, on s'attend à un taux de malnutrition, notamment parce que certaines infrastructures, comme l'accès à l'eau, sont particulièrement affectées. On peut avoir des enfants mal nourris dans un contexte où il y a assez de nourriture, mais malheureusement pas d'eau saine.
Christophe Boulierac, porte-parole de l'UNICEF. Et pour terminer, les États-Unis et Cuba participent tous deux au sommet des Amériques qui commence aujourd'hui au Panama. Le président américain Barack Obama et son homologue cubain Raúl Castro pourraient se rencontrer en marge de la réunion. Mais pas de réunion officielle prévue entre eux. Rappelons que Washington et La Havane sont en train de normaliser leurs relations diplomatiques après plus de 50 ans de rupture. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info.